I tell you, it's unfair. Players getting a yellow card for taking their shirts off after scoring. You get some players who literally could go 300 games without a goal. They slot one in eventually. What's he going to do? Be all casual about it? No, you need to take that shirt off. Takes off his shirt, gets a yellow card. It's not fair.
If you want fair, you want fixed price fibre broadband from TalkTalk. Unlike some providers, our price stays the same for the entire length of your contract, so you won't lose your shirt. Search TalkTalk Fibre, fairer broadband for everyone.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, l'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit, la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, l'After, la seule émission française en direct, 7 jours sur 7, casting du soir, bonsoir Jonathan McCarthy.
Salut les gars.
Ludovico Bragnac, salut Ludo.
Messieurs, bonsoir.
Le col roulé de sortie, ça y est, le costume 8 pièces pour Jonathan. C'est le cadre habituel du week-end, l'after de l'élégance.
Oui.
Le casting est réuni. Ce soir au programme, messieurs, on est ensemble jusqu'à minuit. Nantes-Monaco, le débrief, la victoire monégasque. Deux événements dans ce match, on en parle dans un instant. La vie tranchée de Jonathan, je le disais. André Villas-Boas se trompe quand il dit que PSG-OM est désormais un match comme les autres. Il en colère, Jonathan. La vie tranchée de Ludo, stop au 4-3-3 à Lyon. Il faut construire, et notamment autour de Memphis Depay. C'est l'avis de Ludo. Et ça y est, messieurs.
Et pas que. Bon, on y reviendra après.
Ben, on est à son avis tranché. Et si on a le temps, messieurs, en fin d'after, ce soir, on a un quiz spécial PSG-OM. On le fera demain si on n'a pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous raconter ce soir. Mais d'abord, l'essentiel, même dans l'after, c'est les trois points.
Ben, l'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Appelez-nous supporters nantais, supporters monégasques également, le hashtag RMC Live, le 32-16 est ouvert. Supporters marseillais et lyonnais, ce sera la vie tranchée de Ludo. Appelez-nous, on est ensemble jusqu'à minuit, on a 1h20 messieurs devant nous.
Magnifique.
Pour se régaler comme tous les vendredis soirs. On commence par Ludo, les tes trois points.
Écoute, j'ai mis Monaco le talent comme oxygène, parce que au vu de ce match-là, Monaco respire enfin, mais ne fait la différence que par ses individualités. Ce soir, en l'occurrence, le tandem de choc et Benjamin Lecomte qui est de retour aux affaires. J'ai mis Nantes Pirelli, parce que cette équipe, elle me fait penser un peu à la pub pour les pneus, tu sais, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Je trouve que cette équipe a beaucoup de qualité, en tout cas sur les intentions, les schémas de jeu. J'ai trouvé cette équipe intéressante, mais il manque le facteur clé, c'est la qualité technique. C'est ce qui a manqué à Nantes pour faire la différence ce soir. Et mon troisième point, une vanne aussi grotesque que certains cas, j'ai Yann Avar. Voilà.
Yann Avar.
Ouais. Ah ouais, mais j'en ai pas vraiment marre de l'Avar.
Bien les
en fait, j'en ai marre de cet outil qui met d'autant plus en lumière la pauvreté du niveau de notre arbitrage. C'est surtout ça. Parce que l'outil en lui-même, s'il était bien exploité, à la limite, je peux comprendre que ça peut être une avancée. Mais la manière dont on l'utilise, ça creuse d'autant plus l'écart
C'est les trois points les plus longs du monde.
Et puis c'est long, surtout. Pas les trois points, mais la VAR, encore une fois, 5 minutes additionnelles. Non, mais c'est fini, hein, c'est bon, les gars. Je rebondissais sur le dos.
On devrait arrêter ce chrono, d'ailleurs.
C'est les trois points, c'est important, les gars.
Je pense qu'on devrait mettre plus fort le chrono, même, tu vois. Allez, Joe, à toi.
Bon, le premier point, c'est que Monaco, à défaut d'être brillant, je trouve que ce système en 3-4-1-2, je sais pas trop, un peu hybride, leur apporte quelques garanties, notamment défensives.
Ah, intéressant, il y aura un débat avec Ludo qui est pas d'accord.
Le deuxième point, c'est Wissam Ben Yedder, superstar, 9 buts, 9 matchs. C'est un joueur qui éclabousse de toute sa classe le championnat de Ligue 1. Et enfin, on y est, dimanche, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Il faut absolument que l'Olympique de Marseille aborde ce match avec de l'ambition, de la hargne, de la niaque. Parce que si Reims l'a réussi, l'OM doit pouvoir aussi le faire.
Voilà pour les trois points qu'on va développer bien sûr dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit, messieurs. Double événement sur ce match, la victoire de Monaco et grâce à Ben Yedder à la Beaujoire face à Nantes. Nantes a encaissé pour la première fois de sa saison un but à domicile. Événement. Deuxième événement, Monaco n'a pas encaissé de but cette saison. La pire défense de Ligue 1. 21 buts encaissés cette saison.
Dû surtout à la technique de certains joueurs nantais. Ce soir, normalement, je pense à Koulibaly qui a quand même eu.
Il a beaucoup couru.
Je trouve que Nantes fait tout bien jusqu'à l'avant-dernière ou la dernière passe. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de choses, des prises de risques, des défenseurs qui apportent le surnombre.
Il faut la différence, Simon.
Des différences sur les côtés qui ont mis au supplice les latéraux, enfin si on peut appeler ça vraiment des latéraux, parce que Jelson Martin, j'appelle pas ça latéral.
Hein.
C'est pour ça que je serais pas forcément d'accord avec Jonathan sur le fait que ce système ne met pas en valeur certains joueurs de cet effectif.
Mais c'est autre chose que je voulais dire.
On en discutera après. Mais c'est surtout dû à la pauvreté de la finition nantais ce soir, parce qu'il y aurait pu y avoir un ou deux buts pour Nantes à la mi-temps.
Petit coup d'arrêt pour le FC Nantes. Deuxième défaite. On va parler de Monaco d'abord avant de parler du FC Nantes. Mathieu, supporter de l'AS Monaco, nous appelle au 32-16. Bienvenue dans l'After, Mathieu.
Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Bon, dis-nous.
Soulagé.
Juste une stat, soulagé. On le rappelle, hein, quatrième victoire en cinq matchs pour Monaco, qui est désormais huitième de Ligue 1. Incroyable.
Ouais.
Avec 15 points, à 2 points du podium. C'est dingue cette Ligue 1. Mais un match en plus, bien sûr, avant la suite demain. Une stat également, avant que tu nous parles de Slimani, je crois que c'est ton avis à toi, Mathieu.
J'ai 3 points, je vous les dirai tout à l'heure.
Ben Yedder est devenu le joueur de Monaco le plus rapide à inscrire 9 buts en Ligue 1 avec le club de la Principauté en 50 saisons. 9 buts. En 9 matchs.
Mais qu'est-ce qu'il est fort.
Sans la VAR, il serait à 11 buts.
Il faudra qu'on en parle parce qu'il est fort.
Mathieu, vas-y.
Ouais, en fait, j'ai mes 3 points. Du coup, j'ai écouté vos 3 points. Donc, j'ai essayé de transformer un petit peu mes 3 points. Du coup, je vais souligner déjà Benjamin Lecomte.
Ouais.
Deux arrêts pour moi décisifs dans ce match. Le premier à bout portant, le deuxième du pied à la 94e minute, là, ou 93e, je sais plus. Je trouve qu'il est en train de s'imposer petit à petit, lui, à Monaco. Ça fait déjà quelques matchs qui fait vraiment des arrêts décisifs. Deuxième point, je voulais souligner la sympathie de l'arbitre, parce que malgré cette connerie de la VAR, parce que pour moi je suis anti-vidéo, bon bref, comme pas mal de monde je pense à l'antenne, l'arbitre, j'ai trouvé qu'il a été assez sympathique de donner justement les informations à Slimani, à le pourquoi il était hors-jeu, le pourquoi, le ci et le
la pédagogie.
Ça évite les joueurs de sortir de leur match en fait.
Mathieu, c'est un point positif quand même.
Par rapport à l'arbitre.
Oui.
Bien sûr. Non, moi je l'ai trouvé. Même moi, en tant que téléspectateur, je voulais pas justement qu'il dénigre les joueurs, qu'il lui posait des questions et qu'il les fasse sortir de leur match.
Je trouve que
Mathieu, sortir d'un match, toi tu le sais, Ludo, comment ça fonctionne. T'as vite fait sortir ton match quand tu sens que c'est injuste et voilà quoi.
Mais Mathieu, Monsieur Léonard, c'est un arbitre qui, je trouve, est vraiment pas mauvais quoi. Je ne sais pas la première fois que je le vois discuter avec les joueurs, que je le vois expliquer ses décisions. C'est pas un arbitre qui reste un petit peu dans sa tour d'argent et qui prend des décisions et qui dit aux joueurs c'est comme ci comme ça, tu discutes pas et on va pas tortiller des pour faire un droit. Mais j'ai trouvé qu'il a bien arbitré ce soir.
Mathieu, tu penses quoi
Et il laisse jouer aussi. Mathieu,
Mathieu, tu penses quoi de l'action du penalty? Enfin, qui aurait pu être sifflé sur la faute de la poussette de Glick.
Pour moi, il y a pénalty. Je vous le dis, voilà, je suis supporter de l'AS Monaco. Mmh. Pour moi, il y a pénalty, mais en même temps, il y a un coup de coude aussi sur Adrien Silva, mais pour moi, c'est pénalty.
Qui vient après.
Du moment où le défenseur pousse. Après, c'est vrai qu'il en rajoute un petit peu, mais pour moi, c'est pénalty quand même, je pense. Je sais pas vous.
Si,
il y a pénalty, il y a pénalty, il y a pénalty. Et le troisième point, Mathieu.
Voilà. Mathieu, vas-y.
Ah, le troisième point, on y vient. Slimani, franchement.
Alors pourquoi plus Slimani que Ben Yedder? Vas-y, dis-moi.
Ah, je peux comprendre.
Oui, non, Ben Yedder, pour moi, c'est top joueur.
Mais l'un ne va pas sans l'autre.
Slimani, ce qu'il fait sur le terrain, ces petites déviations en une touche de balle.
Ouais.
Et moi, c'est vraiment le foot que j'aime. C'est il faut un joueur comme ça dans une équipe.
Bien sûr.
Ce qui est génial, en fait, c'est que bravo Jardim.
Ouais.
On le critique Jardim, c'est lui qui le voulait absolument. Il a connu au Sporting il y a 7 ans. Il veut le faire venir dernier jour du mercato.
Mais c'est un super joueur.
Et les gars, Slimani,
il y a pas de discussion.
C'est cadeau,
dessus, hein.
Option d'achat.
Ouais.
10 millions d'euros.
Non mais c'est, y a pas à dire. C'est un super joueur. Après, la différence. La différence, c'est que Ben Yedder, on s'attendait à ce qu'il soit très performant. Ça, il y a pas de problème là-dessus. C'est un joueur de classe, on le savait. C'est un joueur qui a le niveau Ligue des Champions, on le savait aussi. Slimani, il est un petit peu passé en dessous des radars parce que il s'est expatrié en Angleterre. C'est pas le joueur qui a forcément beaucoup de stats. Il faut vraiment voir le contenu de ses matchs, outre que la feuille de stats, pour se rendre compte que c'est un bon joueur.
Mais là,
tu le vois. En plus d'avoir des stats dans le jeu, il bonifie ses coéquipiers et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Tu apercevras qu'il c'est un tandem gagnant. C'est-à-dire que l'un bonifie l'autre et vice-versa. Tu verras que si Slimani n'est pas là ou si Ben Yedder n'est pas là, tu verras que l'autre
Je suis pas là. Non.
Tu verras.
Non. Je pense que Ben Yedder peut être bon sans Slimani.
Tu verras.
Je pense que Ben Yedder restera performant sans Slimani. Que Ben Yedder, tu lui adjoindras n'importe quel attaquant, ça restera un joueur de classe, parce que je le vois peut-être plus beau que ce qu'il n'est, mais je pense que c'est un joueur de classe. Et je pense que Slimani bonifie Ben Yedder, mais bénéficie aussi de l'apport de Ben Yedder.
Ben Yedder, c'est un garçon qui fait tellement d'appels intelligents que si t'as pas l'intelligence du mec qui fait la passe, comme Slimani qui joue tout dans le bon tempo,
et vice versa,
en une touche,
s'il a pas les appels, il peut pas faire les passes.
Mais c'est pour ça que je te dis que les deux
Ben
ensemble, Yedder, ça fonctionne.
Il est bon aussi, les gars.
Il est bon aussi, mais tu verras que s'il y en a un et qu'il y a un joueur qui est d'un niveau en dessous de Slimani, tu verras qu'il y aura
pas. Attends, quand je dis ça, c'est pas, ça dénigre pas du tout ce que fait Slimani. C'est juste pour vraiment dire que Ben Yedder, on se rend pas compte du niveau qu'il a.
Mais t'as raison. C'est
après, si je peux rajouter un truc sur Slimani, Jonathan. Moi, ouais. Ben Yedder, vraiment, je l'adore. C'est un pur numéro 9. Le premier but qu'il met, il est fantastique. Il a deux mecs devant lui plus le gardien. Il arrive à passer dans un trou de souris.
Le truc, c'est qu'il met des buts que 90% des attaquants en Ligue 1 ne mettent pas.
Bah oui, il est fin.
Exactement.
Tu vois, Ben Yedder, il est quoi? Il a 9 buts là.
Ouais, 9 buts en 9 matchs.
Et bah sans Slimani, tu verrais que Ben Yedder, il serait à 5 buts.
Slimani, 5 buts, 7 passes cette saison. Ouais. 7 passes,
voilà,
9 buts.
Juste pour ajouter un truc sur Slimani. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est quand il est devant comme ça, il se décale du défenseur, il vient chercher les ballons
entre les lignes,
au milieu de terrain. Et c'est dans ce secteur-là, en fait, c'est presque poste 10 où il est le plus fort, en fait.
Il joue en 9,5, Mathieu.
Comment?
Il joue en 9,5, c'est Ben Yedder, le vrai avançant.
Exactement, il joue en 9,5, et moi je trouve que c'est un vrai chef d'orchestre, en fait, devant. Je parle vraiment que pour l'attaque. C'est un mec qui arrive toujours à trouver une solution. Si vous regardez bien, il doit perdre quoi? Peut-être 3 ou 4 ballons dans le match, et encore, je suis méchant avec lui.
Mathieu, juste, tant qu'on t'a, j'aimerais parler de la chose qui fâche. Et là, c'est par rapport à Ludo, on avait l'air d'être en désaccord là-dessus. Alors moi, ce que je disais, c'est que jouer à 3 derrière, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut, vu la faiblesse individuelle des défenseurs qu'ils ont. Mais j'ai quand même encore du mal avec le milieu de terrain, avec Bakayoko Silva, qui certes dans l'impact récupère quand même 2-3 ballons. Mais je trouve que Bakayoko, notamment, a accumulé certains mauvais choix offensifs ce soir. Notamment en fin de match, là, il doit faire la passe 3000 fois devant sur une des dernières actions monégasques avant de la mettre à Fabregas latéralement, alors qu'ils avaient un 5 contre 2 à jouer.
Il est carbo dans ce rôle de 8, il est carbo.
Et moi, je le trouve pas extraordinaire, Bakayoko.
Il a plus la lucidité.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ludo, de Bakayoko?
Alors,
et Mathieu,
je vais te dire pourquoi je suis pas très fan de ce système-là. Déjà, dans un premier temps, parce que de toute manière, tu prends le feu sur les côtés, que tu sois à 4 ou à 5. Depuis le début de saison à Monaco, tu devrais venir faire des prises à 2 sur les côtés, puisque ton troisième défenseur.
Attends, je te coupe, c'est pas une question. Tu penses que c'est à cause du système ou des joueurs qui ont été alignés sur les côtés ce soir?
Non, ce que je veux te dire, c'est que peu importe les joueurs que tu alignes, que ça soit Aguilar ou quoi, je pense que tu perds quelqu'un dans la construction de ton jeu offensif ou même au milieu de terrain.
Okay.
Je pense que Bakayoko, dans ce rôle de 8, n'est pas à l'aise. Il serait beaucoup plus à l'aise avec Adrien Silva à 2 au milieu. Je pense que Jelson Martins, il serait beaucoup plus...
Quand
tu vois la fin de saison dernière,
il est sacrifié,
il joue quasiment arrière-droit. Il mériterait de jouer un cran plus haut, et tu le vois, dès qu'il est aux avant-postes, il est dangereux. Et je trouve que Golovin pourrait facilement jouer côté gauche dans un 4-4-2, puisqu'il rentre tout le temps à l'intérieur et que Gilles Diaz prend le couloir. Je trouve que de toute façon, là, tu t'es fait mettre au supplice par rapport à Simon et par rapport à Bamba. Et que tu sois à 4 ou à 5, finalement, ça change pas grand chose.
Je pense que
cette équipe aurait plus de stabilité à amener quelque chose de plus sur le plan
social.
Merci Mathieu d'avoir appelé au 32-16.
Malheureusement, juste pour se terminer, cette stabilité-là, on l'aura que quand on aura deux grands défenseurs centraux et qu'on pourra faire un 4-4-2.
Je pense que la clé, les gars, c'est de rester à 3, mais de réorganiser ton milieu de terrain.
Parce que tu vois, Mathieu,
il y a des choses à faire.
Mathieu, le truc, c'est que normalement, quand t'as une défense à 3, Jelson Martins, il devrait être aidé par Jemerson sur Simon.
Ouais.
C'est pas le cas. Jelson Martins, il est toujours laissé en 1 contre 1. Donc tu vois, quitte à jouer des 1 contre 1, autant d'avoir un mec en plus devant pour éventuellement contre-attaquer.
Merci Mathieu, excellent
choix. Vous passez un bon week-end, les gars. Et
vous aussi. Merci.
Bon, Mathieu, rappelle-nous.
Salut Mathieu, ciao.
Supporter monégasque également qui nous appelle, Stéphane. Salut Stéphane.
Oui, bonsoir l'acteur.
Salut Stéphane.
Bon, Monaco, 8e de Ligue 1, 15 points sur 3 possibles. Oui, parce que je vous posais la question après, messieurs. Hein. Tiens, on va marquer ça sur RMC Sport News. Est-ce que le podium est-il à nouveau possible pour l'Est Monaco?
Non.
On va poser la question.
Dans cette Ligue 1.
Stéphane, vas-y.
Oui.
Qu'est-ce que tu as aimé ce soir?
Moi, j'ai aimé. Bon, vous avez parlé de la défense. Et bon, il y a un défenseur que j'aime beaucoup, c'est Benoît Badachidé. Il est très bon, il a très bien joué ce soir, il est revenu couvrir les brèches. Et après, on a le duo On a Zo, Ben Yedder, Slimani, Golovin qui met un super ballon en Ben Yedder.
Ouais, c'est vrai.
C'est l'année de Golovin cette année. Ouais. Voilà, mais bon, je tiens un grand coup de chapeau à Leonardo Jardim parce que beaucoup sur RMC l'ont critiqué au début de saison, qu'il allait se faire virer. Mais bon, vous allez voir que Monaco arrivera sur le podium en fin d'année. Hein.
Ah, ça c'est intéressant.
Ah, c'est vrai. Mais tu sais, dans cette Ligue 1, de toute manière, tu gagnes deux matchs, tu te retrouves vite en haut, tellement le niveau est devenu homogène.
Okay, en journée, après, ils sont
sur 8e. Non, mais après, il y a quand même quelque chose qui est irrémédiable du côté de Monaco. C'est qu'il va falloir absolument, par rapport à ce que Ludo disait tout à l'heure, il faut absolument trouver la bonne organisation défensive sans te dépoiler au milieu de terrain. Mmh. Et si tu veux continuer à jouer à deux devant, parce qu'il faut continuer à jouer avec Ben Yedder et Slimani, il faut absolument trouver une solution.
Les gars, ne vous laissez pas tromper non plus par le résultat, Stéphane. Je trouve que tu vas un peu vite en besogne. Est-ce que tu as vu est-ce que tu penses que c'est mérité que tu mènes au score à la mi-temps? Tu trouves ça mérité, toi? Tu penses que tu dois mener
non,
à la mi-temps?
Non, sincèrement non. Bon, je pense.
Alors que Monaco soit en progrès, je suis d'accord avec toi. De là à dire qu'ils peuvent jouer la troisième place, tu peux pas jouer la troisième
ou la deuxième,
place.
Hein, il parle
tu peux pas jouer le podium avec une défense pareille. Tu ne peux pas jouer le podium avec une défense pareille.
Je vais vous dire quelque chose.
Ce soir, tu dois prendre encore une fois.
En Ligue 1, tu joues avec une défense solide. Peu importe, même si tes défenseurs individuellement sont nuls, trouve un système défensif qui est solide avec la qualité des attaquants que t'as devant. Ça peut suffire, malheureusement. Mais ça peut suffire.
Tu trouves que t'as une défense solide?
Ludo, on développe ça justement.
Ce soir, tu ne prends pas de but parce que en face, t'as un garçon qui est maladroit et qui, avec un peu plus d'aisance technique, ce qui est.
Ça va quand même mieux, je trouve.
Oui, ça va peut-être mieux, mais de là vous enflammez à dire podium, les gars, calmez-vous.
On va développer ça avec toi, Ludo, avec toi, Jonathan, bien sûr. Le 32-16 est ouvert pour les Nantais également, qui eux sont encore sur le podium. Deux défaites consécutives pour les hommes de Christian Gourcuff, toujours deuxième avant la suite de la 11e journée. Monaco peut-il finir la saison sur le podium? Est-ce qu'il faut y croire désormais après ces 4 victoires en 5 matchs? On en débat dans un instant. L'after revient, l'arbitrage chaud de Jonathan aussi sur Marseille.
Ouais.
De Ludo sur l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'il faut changer à Lyon? Et supporter Nantais au 32-16, appelez-nous, c'est l'after, vous écoutez RMC. A tout de suite.
RMC.
L'after foot.
RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Macardy, vous écoutez RMC. Il est 23h, on est ensemble jusqu'à minuit, on a encore 56 minutes précisément, messieurs. La vie tranchée de Jonathan. Avant le. On dit classique ou pas? On prend une décision, les gars. On dit classique, PSGOM, on dit pas.
Non, on dit PSGOM, c'est
on
tout.
On dit PSGOM, on est d'accord.
On va pas dire classique.
Non, alors on me dit le choc dans l'oreillette. Non, c'est même malheureusement, c'est même plus.
PSGOM, c'est tout.
PSG.
Je vais pas le dire, mais juste pour embêter Jonathan, je vais le dire.
Le classique.
Voilà.
Toi, tu vas même dire le classico, tu sais, le truc qui énerve.
Ah non. Ça n'existe pas. Le super classico a eu lieu la semaine dernière, cette semaine, entre Boca et River. River a sorti Boca, ça c'est un super
finale,
classico.
Flamengo, River, Copa Libertadores, ça va être fantastique.
Ah, c'est Jorge Jesus contre Gallardo, c'est le feu.
Est-ce que ça commence à peser lourd, là, toutes ces victoires de River sur Boca?
Ah, bah, l'entraîneur Alfaro a démissionné. Tout simplement.
Latéral droit de River Plate, quiz, Jonathan, on va voir si t'es un vrai spécialiste.
Il y en a plusieurs. Il y a Emmanuel Mas et il y a Buffarini.
Il dit n'importe quoi, tu sais, le mec, il a inventé deux noms sud-américains.
Il y a Gilles Mascarpone.
On vérifie.
Il y a Gilles
Mascarpone.
En vérité, je vais même vous dire que le problème d'Alfaro Boca, le problème d'Alfaro à Boca Juniors, c'est de n'avoir jamais réussi à stabiliser deux latéraux. Non. Et par exemple, des joueurs comme Emmanuel Mas ou Buffarini, qu'ils avaient acheté assez bons, qui sont des latéraux de renom en Argentine, n'ont jamais su s'imposer dans cette équipe. Mais me lancez pas là-dessus.
Nico, ne remettons pas en cause son seul talent, qui est de connaître le football sud-américain.
Son seul talent.
Allez, on avance, messieurs. Ton avis sur Villas-Boas, ses déclarations avant le PSG Marseille dimanche soir dans un instant. L'avis de Ludo sur le changement tactique a opéré du côté de l'Olympique Lyonnais. Et un avis très précis, Ludo. Un quiz peut-être en fin d'émission, mais d'abord on reste sur la victoire de Monaco à Nantes. 1-0, Ben Yedder, 9e but en 9 matchs. Phénoménal Ben Yedder, on peut en parler dans un instant, bien sûr. Supporter Nantais nous appelle au 32-16. Juste pour finir là-dessus, dis-moi pourquoi, en quelques mots, Ludo, Monaco a peu de chances de finir sur le podium de Ligue 1 avec son armada offensive.
Parce que
notamment,
dans cette configuration-là, je trouve que ce système A5 te dessert offensivement, même si finalement les deux de devant, pour l'instant, font le taf. Je pense que tu pourras avoir plus de joueurs concernés, puisque là, ce soir, tu vois que c'est 4-5. Excepté ta défense, qui est pour moi aux abonnés absents à tous les matchs. Si ce n'est de temps en temps, t'as Badiachil qui sort un match de temps en temps, une fois sur deux, une fois sur trois, plutôt correct. Je trouve que tu annihiles les capacités de Jenson Martins, sur le côté droit. Alors que ce garçon a une capacité fantastique d'élimination dans les 30 derniers mètres. Le fait de l'utiliser utilisé comme ça, comme piston, ça le fatigue. Il est beaucoup moins lucide, il est beaucoup moins aux avant-postes. Je pense pas que ce soit une super idée. Et puis tu grilles aussi Bakayoko.
Pour un 4-4-2 puis,
ouais, je serais pour un 4-4-2, ouais. D'accord. 4-4-2, de toute façon, les deux devant.
Avec quel défenseur, Ludo?
Avec quel défenseur, c'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne
c'est
question.
Tout le problème.
Je pense.
Peut-être que Maripane est là aussi, mais bon.
Ouais. C'est son frère.
Il préfère Jimerson.
Non, mais les gars, c'est son frère, Maripane. Ouais. C'est bien clair.
À la limite, peu importe, je crois même que je sortirais Glick.
Et tu laisses Jimerson, tu enlèves Glick.
Je réintégrerai Aguilar, même à 4.
Ouais.
Parce que ce garçon, quand même, il a du gaz. Il sait quand même défendre. Avec Gelson Martins, moi qui ai joué avec Aguilar quand j'étais à Auxerre sur le côté, je peux te dire que, bon, voilà, il m'a souvent bien aidé. Donc, moi, j'opterais Bakayoko. Je crois qu'il serait beaucoup plus à l'aise à côté d'Adrien Sylvain, vraiment dans le cœur du jeu.
Plus bas.
Là, le fait en 8 d'aller chercher, proposer.
En double pivot, comme il jouait avec Fabinho.
Ouais, il n'a pas été à son aise. Et puis, au bout de 60 minutes, il a avalé la trompette.
Ben, on a la confirmation que Bakayoko était fort grâce
à Fabinho. Mais ça, on l'avait dit.
Je pense que cette équipe peut encore.
Et ça, on le sait encore plus, c'est encore plus criant depuis son retour à Monaco.
Cette équipe compte trop jusqu'à maintenant sur la qualité de son duo et de Golovin et de Lecomte. Je pense qu'elle peut être plus perspicace en tant qu'équipe.
Mais tu vois la marge de progression.
Les gars.
Si t'as un Lecomte qui confirme qu'il va mieux, qui était catastrophique en début de saison, si t'as un milieu de terrain, une formule trouvée par Jardim, si aussi, ils ont de l'argent.
Les poules avaient
des recrutements cet hiver. Avec un vrai gars, peut-être, tu vois, défense centrale, pour écarter Jamerson ou Glick.
Le
Monaco
problème.
A le potentiel pour jouer au podium.
Je vais vous dire un truc.
Vu l'état de Lyon,
non mais,
l'état de Marseille aujourd'hui,
il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans cette Ligue 1-là, avoir un bon gardien, deux bons attaquants et être approximativement solidaire, ça peut largement suffire.
Attention Jo, hein, le niveau de la Ligue 1 actuelle ne sera peut-être pas le niveau de la Ligue 1 dans quelques semaines. Hein.
Aussi.
Si Lyon arrive à trouver, la formule et que Villas-Boas pareil, qu'il y a un élan, une petite série de victoires, attention, ça peut
changer.
Mais
avec le talent qu'ils ont devant, je pense qu'ils auront quand même leur mot à dire.
Allez, Ludovic Obraniak, Jonathan Macardy, c'est l'after sur RMC. Charles, supporter nantais au 32-16, vous a appelé. Salut Charles.
Bonsoir Jonathan, bonsoir Nico, bonsoir l'équipe.
Salut Charles.
Coup d'arrêt qui se confirme, hein, Charles. Hein, deuxième défaite nantaise, toujours deuxième pour l'instant, mais ça ne tient qu'à un fil.
Ouais, coup d'arrêt, mais non, je pense qu'on est quand même sur la continuité d'un bon début de saison. Même si on a eu du mal ce soir, je pense qu'on est aussi à notre place en redescendant un petit peu au niveau du tableau.
Ça, c'est sûr.
Et bon, bah, là, je sors. J'ai plus beaucoup de voix, je sors de la tribune noire. On a essayé de soutenir nos joueurs, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut avant tout saluer quand même le travail de Gourcuff, même si on voit pas forcément sur ce match-là, mais c'est un travail de l'ombre qui est assez efficace quand même.
Tu le vois sur ce match. Tu le vois le travail de Gourcuff. Tu vois les séquences de jeu, les schémas de jeu. On attire d'un côté, petit triangle, 2-3, on change de l'autre, on trouve de l'autre côté.
Ils ont pas d'avantage.
Tu fais un match plus que correct ce soir.
Le
seul problème, c'est la finition et le dernier, l'avant-dernier geste. La qualité technique de certains joueurs.
C'est
la seule chose qui te fait défaut ce soir.
Est-ce que t'as pas les qualités inverses entre Monaco et Nantes? Monaco a le talent, mais pas forcément la discipline et l'intensité. Et Nantes n'a pas le talent, mais a la discipline et l'intensité.
Parce que quand tu regardes Nantes jouer, même sur un match comme ce soir où il y a deux trois choses qui vont pas, même si avec Bakayoko qui fait pas un bon match, tu vois que sur les côtés il y a du travail, il y a des triangles, il y a des choses qui sont mises en place dans la semaine, dans l'entraînement. C'est une équipe qui a vraiment de la personnalité. Après, Nico a tout bien résumé, hein, ils ont pas assez de talent. C'est tout. À Lorient, même si on avait tendance à dire que Lorient c'était une petite équipe, il avait quand même des Gamero, des Amalfitano, il avait du matos offensif.
Ça se travaille tout ça. Et Christian Gourcuff est bien placé. C'est un apôtre de la qualité technique, du jeu technique. Donc,
mais il lui manque un peu de talent.
Un garçon. Moi, j'ai connu Pierre-Emerick Aubameyang à Lille. Je peux vous dire que si vous l'aviez vu à Lille, honnêtement, vous auriez, il y avait aucune chance qu'il fasse une carrière comme il est en train de faire. Il y a eu un entraîneur qui l'a pris sous son aile, c'est Christophe Galtier, qui l'a fait bosser devant
comment
le but.
Tu fais bosser?
Et ben tu
fais des gammes, tu fais des passes à 5 mètres,
des gammes et la fin des entraînements, du travail devant le but, de la répétition, C'est ça. Alors c'est barbant de répéter les gammes, mais ces joueurs-là, ils en ont besoin. T'as l'impression qu'ils ont.
Si je peux me permettre.
Ouais. Vas-y, Charles.
Si je peux juste me permettre, oui, c'est sûr que techniquement, on fera pas au niveau et tout au long de la saison, ça va être le cas. Mais si on peut gagner des matchs comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est avec les tripes, ouais, avec un Nicolas Palois qui lui aussi est à la dalle comme un chien, et nous l'équipe et tout ça.
Je vais juste ajouter un truc, un point à ce que tu dis, c'est que de toute manière, dans toutes les équipes que Christian Gourcuff a eu, par exemple à Lorient, il a toujours eu un très bon avant-centre fin techniquement, que ce soit Kevin Gamero ou Jérémy Eliader. Il m'en échappe certainement, mais à chaque fois, Lorient se démarquait par avoir un bon avant-centre devant et au moins un bon profil, genre numéro 10, comme Morgan Amalfitano l'a longtemps fait à Lorient. Et là, du point de vue du numéro 9, compliqué. Il mériterait d'avoir peut-être un avancement différent.
Cette première action, non, parce que Koulibaly, il fait le taf, il est là, mais il demande, profil, il est généreux. Mais je te dis, il faut le faire bosser. Tu lui fous 50-100 ballons à la fin de chaque entraînement, de la gauche, de la droite, en pivot, en truc, en ci, en ça. Et tu vas voir.
Je pense que ça
peut. Mais bien
ça,
sûr,
ça
il va progresser, c'est sûr. Et Christian Gourcuff, il est bien placé pour faire progresser ce genre de joueur.
Charles, tu vas rajouter quelque chose ou pas?
Non, écoutez, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai participé à quelques entraînements quand même de Gourcuff.
Raconte-nous un peu.
C'est vrai. Et ben, écoute, je trouve un petit peu à la façon Ranieri, comme on a eu, c'est quand même techniquement quelque chose. Il fait un vrai travail de fond. Même si c'est vrai qu'on a perdu Valentin Rongier, notre métronome, et qui, je pense, nous fait mal au terrain. On essaye encore une fois de se battre avec nos armes, c'est pas simple. Mais à partir du moment où on aura une vraie cohésion entre les supporters, notre équipe, qu'on sera derrière eux et qu'on continuera à les soutenir, à domicile comme à l'extérieur, je pense qu'on peut essayer de faire des choses. Alors, certainement pas Ligue des Champions, peut-être pas une Coupe d'Europe, mais au moins
c'est
commencer à avoir un projet de jeu sur 2-3 années, en naviguant dans le marasme de Kita, mais en étant derrière notre coach surtout.
Charles, est-ce que tu pourrais être d'accord avec moi sur le fait que la seule déception pour l'instant, c'est Ludovic Blas?
Oui, je pense qu'il faut lui laisser son temps. Ouais. Il a été bon quand même avec Guingamp. Il est prometteur. Ce soir, il a été un petit peu, c'est vrai, transparent, surtout au milieu de terrain, ça s'est ressenti. Mais voilà, on sait ce qu'il peut valoir. On ne sait pas encore ce qu'il vaut et je pense que ça mérite d'attendre un peu.
Ça fait du bien. On vous sent apaisé à Nantes. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas senti apaisé, les supporters nantais.
On est apaisé parce que, comme je vous dis, on suffoque un petit peu, mais. Voilà, on arrive à relever un petit peu la tête derrière notre entraîneur.
Il y a quand même une dernière chose sur ce match, pour ma part, du point de vue nantais, du côté nantais, c'est que même si c'est pas non plus cataclysmique, j'ai trouvé que le duo au milieu de terrain, notamment Abed qui est, surtout Abed, que je trouvais vraiment très bon depuis le début de la saison, je l'ai trouvé un petit peu en dessous sur ce match-là. Je l'ai vu perdre 2-3 ballons assez dangereux, chose qui n'est pas familière avec ce joueur-là qui d'habitude est très bon. Et donc ce soir, je pense que ça a aussi un petit peu péché.
Est-ce qu'on peut poser juste une
vas-y, après on passe à
une interrogation comme ça. Est-ce que tu trouves que j'aime beaucoup ce joueur et notamment ce qu'il fait depuis le début de saison et encore ce qu'il fait ce soir. Est-ce que tu penses que Nicolas Palois cette semaine il s'est un peu tiré une balle dans le pied, il est sorti un peu du cadre habituel et j'ai l'impression que ça lui a joué certains tours sur ce match-là, tu vois, je l'ai vu beaucoup plus râleur. Sur le but, il est un peu à l'envers. Est-ce que tu penses que un petit manque d'humilité quand même tu sens que c'est forcé. On retrouve pas le Nicolas Palois.
Alors on va rappeler ce qu'il a dit quand même.
Je trouve
à nos confrères du journal L'Équipe ce matin, une interview qui a fait beaucoup parler. Moi j'aime son franc-parler. Il a expliqué que dans sa carrière aucun défenseur ne l'a impressionné, aucun attaquant ne l'a impressionné, y compris les Mbappé, les Neymar et compagnie. Il dit notamment que il parle de son avenir aussi, un garçon extrêmement confiant. Qui ne s'intéresse pas vraiment au foot. Quand on lui parle de Van Dijk, est-ce que c'est un modèle? Il fait Van Dijk, c'est qui lui? Il joue à Liverpool, c'est ça? Voilà. Ça a fait un peu réagir. Moi, j'aime bien que les joueurs sortent un peu des discours un peu tièdes.
Dans ce cas-là,
maintenant, faut assumer. Mais bon,
si t'aimes ça, dans ce cas-là, Rodrigo Philippi, qui veut son rêve, c'est de devenir chauffeur poids lourd, ça doit être ton idole alors.
Mais c'est très bien.
Moi, je pense que c'est une mentalité qu'il s'est donnée. Et il est beaucoup dans la dérision quand même, parce qu'on connaît son personnage. Il dit que personne lui fait peur parce que physiquement il est monstrueux. Je pense que techniquement il sait ce qui il est et voilà. Soit il en joue à faire le policier et nous on adore ça.
Le CRS.
Soit il reste à sa place. Et on allait le chercher à Bordeaux, il avait du mal à s'épanouir. Ici il est bien, il est chez nous.
J'adore son début de saison, Charles. Je reviens pas sur le fait que son niveau de jeu est plutôt excellent depuis le début de la saison. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il sort un peu de sa coquille, tu vois. Je sais pas. Ce soir, j'ai l'impression que sur certains détails, ses déclarations ont peut-être.
Il tire la baraque ce soir.
T'as pas aimé toi ces déclarations là?
C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai l'impression que c'est forcé. J'ai pas l'impression que ça soit ça. Alors je sens qu'il a. Tu vois, autant sa déclaration sur l'équipe de France, j'ai trouvé ça, chouette, drôle et tout. Autant tu vois le fait de dire personne qui me fait peur, il y a jamais un attaquant qui m'a impressionné. Premier ballon, Dani Eder, il fait l'amour.
La seule chose que j'attends, c'est Marseille-Nantes juste pour que Pipa lui ferme la bouche par rapport à sa déclaration.
transition.
Après le match contre l'EF.
Justement, la transition. Merci Charles. Tiens Charles, cadeau. Pour te consoler, ouais. Je pense que t'es pas non plus au fond du trou.
Ça va.
Mais bon, il nous vend
On t'offre, ne raccroche surtout pas. On t'offre
la grande histoire de pénis de Valdemarquita.
Le DVD.
Ah,
voilà.
Bah, j'en avais grand besoin, merci. Parfait.
Après, on t'a pas dit les centimètres qu'on t'offre. Hein. L'intégrale de la saison 9, The Walking Dead.
Oh, voilà. J'adore, merci.
Eh ben, c'est cadeau, tu ne raccroches pas, on t'envoie ça.
On est déjà à la 10, hein, mais bon, on t'offre la 9 quand même.
C'est vrai.
Oui. Pas. Tu parles de quoi là?
Il préférait l'agrandissement, je crois, Charles. Excellente soirée à toi, Charles. Bienvenue.
Allez, merci. Allez les jaunes, merci à vous.
Allez, les Canaries, bien sûr, quelle grande école de foot, les Canaries. Arribas, Siodo, Denouex. L'homme qui disait Denouex, je l'ai déjà dit, une des plus belles phrases du foot français. Un joueur A vaut tant, un joueur B vaut tant. La relation entre les deux n'a pas de prix. Je pensais à ça quand tu parlais de Slimani et Ben Yedder.
Ouais, c'est vrai.
C'est exactement ça. La relation n'a pas de prix.
Ça pourrait s'appliquer à la vie en général.
Rénal Denouex, à l'amour, au couple.
Disais pas que des conneries.
C'est un entraîneur.
Mais Christophe Gourcuff, il est dans la lignée quand même de ces gens-là.
Ah, bien sûr. Il se revendique. École Arribas, Soudo, Gourcuff. Sûrement qui a perdu, messieurs, ce soir. Défaite 1-0 à la Baie des Champs face à Grenoble. Voilà, on vient dans un instant. Bien sûr, messieurs, l'after. Il est 23h14. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak. La vie tranchée attendue de Jonathan sur André Villas-Boas. Ses déclarations avant le duel PSG-Marseille dimanche soir, 21h. Et la vie tranchée de Ludo Obraniak sur ce qu'il faut changer à Lyon pour enfin gagner un match après 8 rencontres sans la moindre victoire.
Ami Rudy,
l'after, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là, comme tous les soirs, du lundi au dimanche jusqu'à minuit, avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak à la radio sur RMC. Et n'oubliez pas, à la télévision également sur RMC Sport News, le son et l'image, le costume et le col roulé, vous pouvez le voir sur RMC Sport News.
Messieurs, bien, Ludo, d'ailleurs. Ça te va bien,
merci. Merci beaucoup.
Dans quelques minutes, la vie tranchée de Ludo sur l'Olympique Lyonnais, qui a la solution, Ludo. Il y a la solution, il n'y a pas de diplôme pour l'instant.
J'ai pas la solution, mais
il a une idée en tout cas.
J'ai d'autres idées.
Pour son ami Rudy.
Pour enfin permettre à l'Olympique Lyonnais de gagner un match, c'est pas arrivé depuis 8 rencontres.
On va pas avoir la prétention de donner des.
Non, mais tu es là pour ça, Lyonnais.
On a des avis.
Des conseils à Rudy Garcia?
Bah oui.
Bah moi j'ai la prétention de donner des conseils à Rudy
Garcia. Donc ça peut aider quoi. Peut-être que tu l'as déjà appelé.
Quand j'aurai mon diplôme d'entraîneur, je pourrais la ramener. Mais là,
c'est quoi le projet?
Écoute, pour l'instant, c'est pas trop en projet au vu des gens qui font passer les diplômes. J'ai pas une grande envie de.
Je pense que t'as pas besoin de diplôme pour être meilleur que Rudy Garcia. Lui.
Messieurs, dames, si nous écoutez dans l'after, préparez-vous. C'est la vie tranchée de Jonathan Macardy.
C'est neutre, y a rien, tu sais même pas quel est leur style de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
Bah oui. Des petites garces mettent des pains.
Bah oui.
Elle pince plutôt, non?
Non, elle a Heinze, elle a Gattuso.
Ah, c'est ça.
Par derrière, en traître.
Il a écrit son avis tranché. C'est une tribune. Tu vas regarder la caméra. Et on t'écoute, Jonathan Macardy. Ici.
Eh ben, écoute, mon avis tranché, c'est par rapport à ce qu'André Villas-Boas nous a raconté sur ce PSG-OM, qui est un match d'une importance somme toute mineure. Que ce PSG-OM qui nous attend ce dimanche, ça serait que d'une importance désuète, du fait de l'écart abyssal et insurmontable de qualité entre les deux effectifs. Alors, selon André Villas-Boas, ce match, ça serait qu'une anecdote dans une période de la saison qui va être chargée et herculéenne en termes de calendrier. On sait que Marseille va avoir une très grosse séquence. Ça va être une période qui va être totalement dingue pour ce qui reste quand même historiquement le plus grand club français. André Villas-Boas, selon lui, cette rivalité qui certes a été artificiellement construite lors des glorieuses années 90, ça serait en fait qu'une espèce, c'est les petites notes en bas de page que t'écris dans un rapport, le truc un petit peu, voilà, tu le lis, tu sais bien, tu le lis pas, peu importe. Eh ben, je suis désolé. Même si j'ai pas des œillères et même s'il faut pas avoir fait Polytechnique ou avoir passé, je sais pas, 3, 4, 6 jours enfermé au pain sec et à l'eau avec Marcelo Bielsa ou Pep Guardiola pour voir que le PSG Qatari est 3, voire 5 fois supérieur à l'Olympique de Marseille de McCourt et Jacques Henriero, bah cette communication, en tant que sympathisant, si j'ose dire, de l'Olympique de Marseille, elle me donne un petit peu la nausée. Vraiment, ça me donne
la nausée.
Et pour moi, c'est le signe total d'une méconnaissance indigente de l'environnement dans lequel l'Olympique de Marseille évolue. Mais aussi, c'est aussi le reflet d'une incompétence crasse. Je sais que ça te fait plaisir que je dise ça.
Indigent et crasse.
De l'incompétence crasse qui règne à la tête de ce club-là. Alors oui, je vais m'expliquer. Il y a de fortes chances pour qu'en fait, André Villas-Boas, dans le secret un peu clanique et aseptisé de son vestiaire, il a un tout autre discours envers ses joueurs qui leur disent c'est un match qui est important, on doit vraiment se donner, on peut le gagner, etc., etc. Mais s'il y a bien une chose qui compte aux yeux des supporters de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas de s'assurer une place dans le top 5 de la Ligue 1. C'est pas de jouer la carte du comptable à la petite semaine pour engranger les points sur une séquence qui, comme j'ai dit, va être très compliquée. Non. Ce qui compte vraiment aux yeux des supporters de l'OM, c'est de retrouver un brin de ce que la direction actuelle leur a retiré. C'est quoi ? C'est retrouver un chouïa de ce sur quoi Jacques-Henri Hérault semble s'être essuyé les pieds comme il l'aurait fait avec un vulgaire paillasson. Ce que veulent retrouver les supporters de l'OM, c'est simplement de la fierté. Cette fierté, ça serait celle d'arrêter de partir à la guerre face à son plus grand rival, la queue entre les jambes et en agitant déjà le drapeau blanc, avant même que les premières cartouches n'aient été tirées. Cette fierté, ça serait celle d'arrêter de faire se comporter Marseille, qui est Marseille la rebelle, Marseille la grande ville, l'Olympique de Marseille, un club historique, comme une victime expiatoire, au moment qu'il serait incapable de reproduire ce que Reims a fait cette saison, ou ce que, par exemple, dans les saisons précédentes, l'Olympique lyonnais a été capable de faire. Cette fierté, elle doit absolument laisser place à cette espèce de défaitisme ambiant qui plombe le moral des supporters olympiens, qui leur les fait s'endormir dans une espèce de moyennitude, de médiocrité. Et voilà, je pense simplement que les supporters de l'OM, qui sont exemplaires, on n'a qu'à voir hein, la fête qu'ils ont fait pour les 25 ans des winners cette année, c'est des supporters qui sont exemplaires, qui mettent le feu, qui mettent l'ambiance, peu importe la situation du club, je pense qu'ils méritent mieux. Alors pour conclure, cette communication défaitiste, même si elle a peut-être pour but d'enlever de la pression aux joueurs, pour moi elle n'a pas lieu d'être. Et encore une fois, je vous aime beaucoup André Villas-Boas, mais j'aime votre sérieux, j'aime votre éloquence, j'aime vos idées pour le mercato, merci pour Pipa Benedetto, merci pour Alvaro. Mais de grâce, je pense qu'enfin, il est grand temps aujourd'hui de prendre la pleine mesure du contexte dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire le contexte qui est celui de l'Olympique de Marseille, qui est le plus grand club historiquement en France. Gardez votre défaitisme et affichez un visage qui soit enfin conquérant. Je pense qu'il y en a marre un petit peu de la part d'André Villas-Boas de se cacher un petit peu, de sortir les pare-feux. Tu sais, on n'a pas d'argent pour le mercato. De toute manière, Paris est trop fort et faut enfin assumer. T'assumes, t'es l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et ça, je pense qu'il a pour devoir d'être plus conquérant, il a pour devoir d'être plus ambitieux, mais je lui accorde, pour conclure, une petite circonstance atténuante, c'est que cette direction qui est totalement incompétente, c'est pas à lui de le faire, et là, Jacques-Henri Hérault, okay, c'est bien beau de le voir pour dire que les tirs à l'extérieur de la surface de la réparation, ça vaudrait 3 points, mais là, avant, un classico, où tu es ? Exprime-toi ! On a besoin de t'entendre. Et donc, je pense que tout simplement, ça, cette situation d'André Villas-Boas qui part déjà perdant contre le PSG, c'est le reflet d'un club qui va mal.
Et on a envie d'entendre également les supporters marseillais appeler notre 32-16 pour réagir à l'avis tranché de Jonathan Macardy, qui trouve pas le discours assez conquérant, celui d'André Villas-Boas. Ludo.
Je trouve que tu sous-estimes un peu dans ton analyse l'intelligence du garçon et même l'intelligence du supporter en général. Je trouve que cet entraîneur, au-delà d'être un grand technicien, un bon technicien, tu sens tout de suite qu'il a du bulbe. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses au hasard dans sa communication.
Il y a une réflexion.
Je peux te jurer qu'il y a une réflexion et que tout est millimétré. Et le supporter, il n'est pas bête au point de se dire que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille mésestime un choc aussi important que le match contre le Paris Saint-Germain.
Mais je
crois juste que c'est un entraîneur qui préfère surprendre que décevoir.
Ah, mais il y a un juste milieu, Ludo. Non, je vais te couper.
Des derniers résultats qui
la dernière victoire c'est en 2011 hein.
Ouais c'est ça, des derniers résultats de ce classique.
Ouais, 2011.
Et je crois que oui, il s'avance pas, mais comme tu l'as dit, son discours en interne doit être tout autre, et tu verras que tu auras une bonne surprise. J'espère juste que au vu des derniers résultats de ce classique, tu n'as rien à perdre sur ce match.
Attends, juste pour répondre pour répondre à Ludo en 30 secondes, il y a une différence entre raconter n'importe quoi et faire le fanfaron comme Rudy Garcia avait pu le faire à la veine en Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain, et il y a le juste milieu avec la position d'André Villas-Boas qui est de dire de toute manière ce match il est pas important. Non, je pense qu'il faut prendre exemple, par exemple, sans tout le temps vouloir revenir à lui, sur ce que disait Marcelo Bielsa, qui disait le Paris Saint-Germain est plus fort, c'est un grand défi, mais on est l'Olympique de Marseille, on se doit d'essayer de gagner chaque match, et y compris contre notre rival qui est le Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, il y a peut-être un recalibrage à faire dans sa communication pour être moi je te le fais.
Vas-y, t'as 15 secondes, vas-y.
Le Paris Saint-Germain est nettement plus fort que nous, ça on le sait, il n'y a pas de problème. Ils ont un effectif de très grande qualité, des joueurs de classe mondiale. Notre effectif est peut-être moins fourni, mais on est l'Olympique de Marseille par rapport à ce que représente ce club, par rapport à ce que représente ce club pour la ville et pour ses supporters. On va être conquérant, on va partir dans l'idée de gagner ce match-là, et advienne ce qui pourra, mais nous allons aborder ce match avec ambition, sans pour autant être sûr de gagner, mais en tout cas je peux vous promettre à vous supporters que nous donnerons le maximum.
Et t'en prends 5 au final, et tu fais comment avec tes déclarations?
Par rapport à ce que je viens de dire, où est-ce que c'est ridicule?
Bah, c'est ridicule de dire non. Que tu vas, comme beaucoup d'entraîneurs ont fait avant lui, de dire que tu vas aller là-bas avec de l'ambition et l'envie de truc. Tu viens, t'en prends 5 dans la musette à la filée, à l'arrivée, et puis au final, tu baisses la tête.
Où est le problème dans ce que je viens de dire? Je t'ai pas dit comme Rudy Garcia.
Il pense qu'il prend un risque vraiment. Mais moi, je sens qu'il y va pour gagner.
À vaincre sans péril, on triomphe son gloire.
Mais moi, c'est une folie. Un entraîneur, il doit être mesuré. Il vaut mieux surprendre que décevoir. Moi, je pense ça.
Tu prends pas le contexte.
Je pense que voilà, je suis pas dupe. Je sais très bien que sa communication, il a une idée derrière la tête, et je pense que
il y a un double discours pour toi. Il y a ce qui passe aux médias et dans le vestiaire.
Bien sûr qu'il y a un double discours.
Mais ça,
bien sûr qu'il y a un double
discours. Et il aurait pu dire également. Reims a gagné au Parc des Princes. Pourquoi pas nous?
Exactement.
Ce garçon, il est trop intelligent pour se saborder comme ça en prenant ce choc par-dessus la jambe.
Pour être très clair, Jonathan, il y a beaucoup de réactions de supporters marseillais sur le Direct Studio, l'application RMC Sport. Sur Twitter. Arnaud nous dit, je pense que André Villas-Boas, c'est un discours devant la presse, un discours devant ses joueurs dans le secret de la commanderie.
Bien sûr.
Beaucoup de supporters marseillais disent on n'en veut pas à Villas-Boas. Je suis totalement d'accord, nous dit Mathieu 007 avec AVB. C'est un match comme un autre aujourd'hui pour nous, les Marseillais. Voilà.
Mais je vais te dire, avant de faire cet avis tranché, j'ai regardé un petit peu, j'ai pris la température. Je sais très bien que la majorité des supporters de l'Olympique de Marseille ne sont pas d'accord avec moi. Nos amis du Fossin ont fait un sondage en demandant est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'André Villas-Boas. Je crois qu'ils étaient d'accord à plus de 80%.
Hicham, ouais, c'est mon supporter de l'Olympique de Marseille, nous a appelé au 32-16. Hein, le standard est là, appelez-nous, supporter marseillais, bien sûr. Le débat est ouvert. PSG-OM, est-ce un match comme un autre? Oui,
salut,
selon Villas-Boas, qui, je précise, Hicham, a dit bonsoir. Également, a rappelé, il y a 1 milliard d'euros de différence de transfert entre Marseille et le PSG.
Et entre
comment
Reims et le PSG, il y a combien?
Allez, il y a 1 milliard 2 peut-être. Ouais, voilà. Vas-y, Cham, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Est-ce que la communication, en tout cas la sortie de Villas-Boas, n'est pas la bonne avant ce match au Parc des Princes?
Non, je suis absolument pas d'accord. Je pense comme la majorité des supporters. Ouais. Et pour le coup, je pense que vaut mieux faire profil bas, vaut mieux avoir ce discours-là en disant, en fait, ce qu'il dit Villas-Boas, mine de rien, c'est la réalité. En fait, il dit que la réalité. Le PSG, c'est un autre monde. Vous vous rendez compte qu'ils vont se pointer au parc avec Mbappé en pleine forme.
Di Maria,
comme on l'a jamais vu. Je termine juste mon propos. Di Maria, comme on l'a jamais vu. Enfin, des joueurs comme Sarabia qui font maintenant le travail avec Verratti, Marquinhos au milieu, qui vont faire le taf. Icardi qui commence à planter. Une défense qui a pas pris de but depuis je sais pas combien
d'OM,
de temps.
On s'en fout de Paris. T'es supporter de l'OM, Hicham. Tu vois, t'es gangréné par ce que le club est en train de devenir.
Moi, je dis ça pour étayer mon argumentation, pour te dire qu'au final, le PSG, ils sont 10 fois supérieurs à l'OM. Et pour finir, ce que dit Villas-Boas, c'est la simple vérité. Ils sont au-dessus de nous. Donc, il dit, les gars, dans notre tableau de points, on sait très bien que on va au parc, on n'aura pas nos supporters avec nous. On sait que ce n'est pas l'ambiance du Vélodrome. On sait qu'on va se faire siffler. On ne va pas prendre 3 points sur ce match. À la limite, en plus, moi, quand je regarde la compo probable,
c'est dramatique ce que tu dis.
Mais non, c'est pas dramatique, c'est la réalité.
La réalité est dramatique. Non, mais attends, Hicham, t'as raison, mais ce que tu dis, c'est la réalité. Mais c'est dramatique, parce que ça symbolise le
fatalisme.
Ce club est devenu dramatique. Mais Hicham, je peux te suivre, y a pas de souci.
Mais on n'est pas devenu dramatique, c'est le club qui est dramatique.
C'est ce que je t'ai dit, ça, Hicham.
C'est les joueurs qu'on a, c'est Kalaitachar, c'est Radonjić, c'est les Strootman,
c'est ce que
les transferts qu'on a fait qui nous mettent dans cet état-là.
Mais bien sûr.
Maintenant, t'as une équipe, j'ai regardé, je me suis intéressé un peu à la compo de Villas-Boas, il est pas bête, il va essayer au moins de gratter un petit match nul, il va mettre 5 défenseurs, 3 milieux récupérateurs et 2 joueurs qui vont jouer devant.
Et Payet derrière Benedetto, ouais.
C'est ce qu'il va mettre en place, en gros, Villas-Boas.
Je pense,
ouais. Donc, il est en adéquation avec ce qu'il dit. Il dit, je vais essayer de faire un coup, mais me demandez pas la lune, les mecs.
Hicham, en fait, c'est pas ce qu'il a dit. Il a simplement dit, et je vous reprends mot pour mot ses propos, ce match n'est pas important. Vous vous rendez compte?
Reste avec nous, Hicham. Il y a énormément de réactions. Le standard, évidemment, explose.
Nico.
Ludo, 2 secondes. Je lis juste cette réaction sur Direct Studio, l'application RMC Sport. À l'instant. Du coup, si le match n'est pas important, si l'OM remporte le match, ça veut dire que c'est pas un exploit à l'arrivée, c'est ça?
Non mais c'est ça.
Juste
c'est
pour répondre à Ludo.
Très intéressant.
Nico, pour répondre
et
à Ludo.
Et alors le Real Madrid, il en a bien pris 3, on s'en fout d'en prendre 5 si on joue comme des vaillants, mais le exactement. Dire PSG est trop fort pour nous, il a qu'à prendre voilà. Villas-Boas, l'équipe de CFA dans merci. Ce cas, on joue 36 matchs dans l'année.
Alors attends juste attends Ludo pour te répondre.
Laisse Ludo parler.
Mais qui vous dit qu'il a pas une idée derrière la tête?
Mais parce qu'en fait
est-ce qu'on est obligé, je vous l'ai dit, on connaît ce garçon, c'est un mec qui est intelligent. Est-ce que vous croyez vraiment dans ce qu'il vient de nous raconter?
Mais parce que c'est important la communication pour les supporters, c'est important.
On va faire un combat. Écoute, on va faire un combat tous les deux au mois de mai. Imaginons que je perds, tu perds, et qu'on renouvelle ça chaque année, et que moi je prends 5 branlées chaque année, tu me mets un knockdown, tu me mets KO chaque année. Est-ce que tu crois que moi, au bout de 5 fois, je vais venir fanfaronner à chaque fois en disant que je vais te mettre une branlée?
Ouais, tu serais un peu ridicule.
Mais, si bah, je serais un peu ridicule.
Mais
voilà.
Alors,
je vais voilà. Donc, tu prends un peu plus de gants dans ta communication, et tu te prépares.
Arrête de dire. Le problème, c'est que tu dis des conneries parce que j'ai jamais dit.
C'est toi qui dis des conneries.
J'ai jamais dit que je voulais que Villas-Boas arrive et fasse le fanfaron et dise on va mettre une branlée au Paris Saint-Germain. Je n'ai jamais dit ça. Ce que je veux, c'est simplement un discours qui soit entre les deux, de la mesure. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu entre dire on va leur mettre une branlée au Paris Saint-Germain et de dire c'est pas un match important. Tu peux trouver l'équilibre.
Tu préfères qu'il soit bon dans la presse ou qu'il soit bon dans la préparation?
Mais les deux.
Dans les deux.
Les
deux. C'est l'after. Il est 23h32. C'est déjà un match PSG Marseille. Ben ça envenime un petit peu tout le monde et l'ambiance. Hicham est avec nous. On est ensemble jusqu'à minuit. On attend dans un instant. Il y a un supporter bordelais qui nous a appelé pour nous dire que c'est fini, c'est plus tout un classique. Arrêtez avec ça, PSGOM n'est plus un grand rendez-vous du championnat de France. Alors oui,
mais
la télévision, les détenteurs, ils font leur job, ils vendent leurs droits, ils en font des caisses tous les ans. Ils peinent de plus en plus pour vendre ce genre de match.
Là où je suis d'accord avec Jonathan, c'est que l'OM doit retrouver sa fierté au moins sur ce match-là, au moins dans les intentions, dans l'engagement,
excellente soirée.
Au moins ça, c'est le minimum syndical. Mais je crois que Villas-Boas à l'inverse est en train de les préparer à faire un coup là-bas parce qu'il n'a rien à perdre finalement là-bas. T'es quasiment les probabilités.
Toi de Jacques-Henri Hérault qui dit rien là, qui est aux abonnés.
Ça c'est autre chose. Ça c'est
pas
autre chose.
Incroyable.
Ça c'est autre chose.
Non, mais tu t'en
rends pas. Mais moi j'aime qu'on fasse monter la mayonnaise. Moi j'aime justement qu'on.
Aussi.
Mais j'aime qu'on fasse. Bah quand je la mange d'ailleurs. Mais j'aime quand on fait monter la mayonnaise. C'est ce qui faisait le charme de ces derbies là, de ces matchs là. C'est qu'à un moment donné, alors des fois ça dépassait le cadre. Mais putain, quand il y avait des déclarations de tapis, de machin, de trucs. Ça avait de la gueule quoi.
Ludo.
Là c'est devenu un peu trop fade.
Je me rappelle d'un truc que t'avais dit l'année dernière qui était très juste sur Tourelle quand il avait fait sa sortie, je sais plus quoi. Tu disais c'est incroyable, c'est pas à lui de le faire. Il se disperse un peu, il devrait avoir un cadre dans l'institution.
C'est pas à Villas-Boas
C'est pas à Villas-Boas de dire qu'il y a pas d'argent pour le mercato. C'est pas à Villas-Boas de dire que ce match n'est pas important. Et où est Jacques-Henri Hérault si ce n'est un énième colloque d'école de commerce pour nous sortir une énième saucisse?
Est-ce qu'il dégage pas toute forme de responsabilité en amont Villas-Boas en disant j'ai pas l'argent donc je peux pas y arriver. Il y a 1 milliard d'écart d'investissement entre PSG et Marseille. Il a raison. Et si ça met ça le fait, s'il prend un point au parc dimanche soir,
et ben voilà,
il est gagnant.
Ouais. Voilà. Mais moi je veux du panache.
Et s'il perd, c'est normal.
Sauf que vous oubliez une chose. Vous oubliez une chose, c'est que parfois la communication.
Ça appelle beaucoup là au 32-16. Je vais donner la parole.
La communication, le comportement d'un entraîneur doit être en adéquation avec l'ADN d'un club, et c'est pas dans l'ADN de l'Olympique de Marseille que de jouer profil bas.
L'after est chaud ce soir sur RMC. David, 25 ans, nous a appelé. Salut David.
Salut les gars, ça va?
Salut David.
Et bonsoir, bienvenue dans l'after. Es-tu d'accord avec Jonathan, ou plutôt avec Ludo, quant à la communication d'un Villas-Boas pas hyper conquérant?
Moi, je suis plutôt d'accord avec Jonathan. C'est-à-dire qu'en tant que gros supporter de l'Olympique de Marseille, c'est pas que je veux prendre un point, c'est que je veux prendre 3 points. Dans le sens où il faut faire monter la mayonnaise de Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur le vieux port, on n'attend que ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 victoires importantes dans notre saison. C'est Lyon et Paris.
À Lyon surtout cette année. Hein.
Tous les autres matchs, à la limite, on va se résigner. On va dire qu'on a mal joué. On peut dire tout n'importe quoi. Mais à Marseille, on a besoin d'avoir quelqu'un qui porte l'étendard.
Exactement.
Voilà. Et notre étendard à nous, le dernier en date, c'était, bien sûr, je fais toujours référence à celui-là, un peu comme Jonathan Macardy d'ailleurs, Marcelo Bielsa.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on arrive à un stade à Marseille où je vois des mecs porter des maillots de Paris. C'est-à-dire que je ne supporte plus la PSG mania. Je veux juste une chose, c'est que l'Olympique de Marseille détruise le Paris Saint-Germain. Et je pense que si vous parlez du sondage du Fossé, honnêtement, pour moi, ce sondage, il est pipé. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous venez n'importe où, dans n'importe quelle bar, dans n'importe quel restaurant,
où on part des malais,
où que vous alliez, n'importe où dans Marseille, il y a, c'est pas une haine viscérale, parce que c'est vrai que cette haine viscérale n'y est plus trop. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a qu'un match où il faut vraiment montrer les dents et les crocs. C'est un PSG OM ou MPG.
Mais qui te dit qu'ils vont pas les montrer les crocs, David?
Non, mais c'est ce qu'il dit. David, il a raison.
Le supporter, moi, je pars du principe que le supporter est quelqu'un d'intelligent qui connaît le football et notamment à Marseille. Est-ce que tu penses une seconde ce qu'a dit Villas-Boas? Est-ce que tu penses que c'est une seconde ce qu'il va appliquer ou qu'il le pense vraiment que ce match est un match comme un autre? Tu penses vraiment ça? Tu penses vraiment ça?
Attends, excuse-moi.
Bien sûr que non.
Mais voilà, donc faites-lui confiance. Il doit avoir une idée derrière la tête. Il dit pas ça. Tu vois, il doit avoir une idée derrière la tête.
Les gars, s'il faut le mec, il va pousser la porte du vestiaire là dimanche. Il va dire, les gars, vous avez lu ce que j'ai dit, on oublie tout. D'accord. Ouais. Je veux des chiens sur le terrain. On peut faire un truc. Et puis d'autres l'ont fait avant nous.
Est-ce que c'est pas une manière aussi de piquer un peu tes joueurs? De dire voilà, bah finalement avec cette équipe-là, on peut pas espérer grand-chose, ou du moins on peut pas avoir des grandes ambitions. Est-ce que ça pique pas un peu les mecs ça?
Moi, je vais vous dire juste une chose.
Je suis joueur et que mon entraîneur, David Ludo, il pense qu'on a ce match-là, c'est pas important.
Je vais vous dire une chose, c'est intéressant d'être joueur.
Mais moi, ça me piquerait.
Ton coach, je le dis ça là.
Mais moi, ça me piquerait.
Je vais vous dire une chose. Juste, et moi, ça sera ma conclusion sur ce, ça commence à m'énerver, en fait. Je vous dis juste que l'Olympique de Marseille est devenu médiatiquement, publiquement ridicule depuis l'arrivée de McCourt. Que si Villas-Boas est intelligent, il s'en rend compte. Si Villas-Boas est humaniste, il prend la température dans la ville, il se rend compte qu'il y a une vraie lassitude, ouais, une vraie honte auprès des supporters. Et du coup, t'affiches pas ce discours-là. Mais, et au moins, tu fais preuve d'un petit peu de courage courage et de panache.
Mais Jonathan, mais comment fanfaronner dans le contexte actuel? À Marseille, on fait jamais les choses à moitié.
Non, regarde, donc, Marcelo Bielsa n'a jamais dit qu'il allait être le PSG. Il a dit que l'équipe laisserait ses tripes sur le terrain. Et ça, c'est le juste milieu.
Ouais. Sauf que Bielsa n'avait pas les mêmes armes à l'époque que Villas-Boas.
Il a perdu ses deux matchs contre le PSG.
Merci David.
Mais on a été fiers
d'avoir appelé au 32-16. Excellente soirée à toi. Bon match dimanche soir. Tiens, messieurs, cette réaction également sur le direct studio de Mike de Paname qui dit: je suis entièrement d'accord avec Jonathan. Il faut avoir un discours de guerrier. Et ça n'a rien à voir avec fanfaronner que de dire que tu vas te battre et c'est pas les battre. Le discours défaitiste influence les joueurs. Perdre en donnant sa vie sur le terrain est une victoire en soi.
Et crois-moi, à Stéphane Mandanda, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment apprécié ce que André Villas-Boas a dit. Hein.
C'est l'after avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak. Vous écoutez RMC, 23h40.
Vous m'éprenez, les amis, vous m'éprenez.
On a prolongé le débat sur Marseille et sur PSG Marseille parce que il y a beaucoup d'appels au 32-16. Anthony, notamment, qui n'est ni Marseillais ni Parisien, il est bordelais. Salut Anthony.
Ouais, bonsoir, messieurs.
Salut, Bordeaux. T'as voulu te mettre le débat.
Je suis en train d'halluciner, en fait, quand j'ai entendu l'argumentation de Jonathan. Je suis en train d'halluciner, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il en parle comme si c'était le PSG-OM d'il y a 20 ans. Et c'est fini, ce temps-là. Déjà, faut rappeler historiquement que ce match, il a été créé de toutes pièces par les médias.
Je l'ai dit, par Canal+. C'est ce que j'ai dit.
Ouais, non, mais on est d'accord. Mais à un moment donné, tu peux pas avoir le discours que t'as là ce soir.
Nos deux ennemis héréditaires, c'est vous, c'est Bordeaux et Toulon.
Marseille, à l'heure actuelle, c'est un club moyen de France.
Mais Paris, ça sera jamais un club moyen. Historiquement, c'est le plus gros club français.
On coupe le micro après.
Laisse-moi finir. Est-ce que tu penses que les Parisiens, ils se disent, putain, là, on va jouer Marseille, oh là là, faut qu'on gagne, oh putain, et tu crois qu'ils vont faire ta pression sans les connaître? Mais Paris, qui joue Marseille, c'est comme s'ils jouaient une équipe moyenne de Ligue 1, ce qui est le cas. Par contre, les Marseillais qui jouent Paris, et ben là, c'est un gros morceau pour eux. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de nous vendre ce PSG-OM, ou de OM-PSG, comme le match le plus important de la saison et tout ça.
En fait, t'as rien compris à ce que j'ai dit.
Les générations, elles ont aucun repère par rapport à ce match-là. Et depuis 8 ans, il faut quand même rappeler que Marseille se fait balader depuis 8 ans.
Mais t'as rien compris à ce que j'ai dit, en fait. Non, t'as rien compris.
Laisse-le finir.
Eh bien, attends, on va aller à Paris, on va démonter tout le monde.
T'as rien compris.
Juste par fierté, par honneur.
Je suis d'accord, Anthony.
Soit tu préfères des paroles ou des actes, mais moi, si j'étais supporter marseillais, à l'heure actuelle, je m'en fous des paroles.
Déjà, t'es pas supporter marseillais, mon pote.
Arrêtez de nous bassiner avec ce match, sans déconner.
Je vais lui répondre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Sauf que t'as rien compris à ce que j'ai dit. Toi, tu te mets du point de vue, tu te places sur le plan du sportif, de ce que doivent penser les joueurs, de ce que pensent les entraîneurs, de ce que pensent les joueurs du Paris Saint-Germain, l'entraîneur du PSG. Et là, je te rejoins, t'as raison, Anthony. Moi, je me place du côté des supporters de l'Olympique de Marseille. et tu ne peux pas te mettre à leur place vu que tu n'es pas supporter de l'OM. Tu ne peux pas comprendre.
Tu peux pas comprendre, Anthony.
Tu peux pas comprendre vu que pour toi ton club c'est Bordeaux et tu ne connais pas l'historique de l'Olympique de Marseille. C'est difficile.
Ça n'a rien à voir, ça c'est un faux prétexte.
Mais écoute-moi.
Est-ce que tu préfères, sans déconner, ça c'est valable pour tous les clubs. Nous quand on joue contre Marseille, c'est la même chose. C'est valable pour tous les clubs. Est-ce que tu préfères avoir Villas-Boas qui a un dialogue en disant les gars, on va aller là-bas, il faut se motiver, ça reste Paris, ça reste un gros match de motiver les gars et que au final au niveau des actes t'as que des actes, ou tu préfères un Villas-Boas qui y va un petit peu avec un peu d'humilité quand même parce que t'es que Marseille. Et au niveau des actes, peut-être qu'il se passe autre chose. Mais c'est ça qu'ils ont envie d'avoir, les supporters.
Bah, je te dis, tu m'as demandé ce que je voulais. Je te dis ce que je veux. Je suis désolé d'être exigeant, mais je veux les deux.
Ok. Fini. Merci Anthony. Excellente soirée à toi également.
Allez, bonne soirée.
Les Girondins de Bordeaux qui seront à Lille demain soir. Demain à 17h30.
Ah, mais c'est un peu l'Obragnatico.
Alors là, c'est l'Obragnatico de base, quoi, le truc. Hein. Puis après, il y aura Bordeaux-Metz et Lille-Metz. Voilà. C'est le bordel. Des infos avant d'écouter l'avis tranché de Ludo Bragnac sur un club malade actuellement, l'Olympique Lyonnais, 17e de Ligue 1. Donc, je confirme, retour de Payet. Il est en forme apparemment. Et de Morgan Sanson, les deux étaient suspendus. Alvaro Gonzalez, 50% de chance de le voir jouer, voire même débuter ce match. Deuxième séance collective après un mois d'absence. Aujourd'hui, il s'entraînait hier, il s'entraîne aujourd'hui avec le groupe.
Il met qui ? Il met Perrin s'il n'est pas là ?
Chaletatsar, ou alors il y a l'hypothèse d'une défense à 3 avec Hiroki Sakai.
Camara, Chaletatsar, ça a plutôt bien fonctionné. Hein.
Ouais, mais c'est possible qu'Hiroki Sakai joue aussi dans la.
Kimpembe a dit aujourd'hui chez nos confrères du Parisien. Je ne mettrai jamais les pieds à Marseille de ma vie.
Eh ben, j'aime ça. C'est bien. Bravo.
Il parle pas du vélodrome, il parle de
l'envie en week-end. Voilà. Presnel Kimpembe, bravo. Et c'est ce qu'on va entendre de la part des joueurs.
Démagogie, quelle nouvelle.
Il nous apprend
grand chose.
C'est un enfant du club. Je pense qu'il est sincère.
Messieurs et messieurs, on l'a pris en début de soirée. Thomas Meunier pour le PSG, out, forfait pendant 3 semaines. Il reviendra après la trêve internationale. Idrissa Gueye également ne sera pas de ce match. PSG-Marseille reprend l'entraînement collectif la semaine prochaine. Ander Herrera, une vraie chance, touché cette semaine avec des champions, d'être disponible pour ce rendez-vous. Puis dernière info, Neymar, pas convoqué par Tite, sélectionneur du Brésil. Ça aurait pu. Retour à l'entraînement annoncé le 10 novembre au PSG. Et il y a 2 matchs avec la Seleção contre l'Argentine le 15 novembre et la Corée du Sud le 19 novembre. Donc, on progresse, Autorité Paris, tu restes avec nous et on revient. L'avis de lutte tranchée de Ludo Bragnac dans un instant. C'est l'after, 23h44 avec Joe Macardi, Ludo Bragnac. A tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. C'est le dernier quart d'heure avec Jonathan Macardi, avec Ludo Bragnac. Vous écoutez RMC.
Ça m'a donné chaud, ça.
Comment ?
Ça m'a donné chaud, là.
Oui, énorme débat, si vous l'avez manqué, à réécouter en podcast, bien sûr, sur l'application RMC Sport. Le débat sur PSG Marseille est-il un match anodin ? On l'a tous les ans, ce débat.
3-0, triplé de Sakai.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mmh. Sakai et quoi ? Et 4 buts de Boba Camara, c'est ça ?
Triplé de Sakai, doublé de Pipa.
D'accord. Lyon à
5-0, Manu.
C'est la vie tranchée de Ludo. On y vient dans un instant. Quelques infos d'abord. Tiens, écoutez. Un bijou de conférence de presse. Rudy Garcia qu'on a trouvé très calme pour l'instant. Lapsus, Rudy Garcia, entraîneur olympique lyonnais.
Si on fait ça et si on y ajoute de la qualité dans le jeu et des buts, le public viendra tout naturellement derrière nous parce qu'ils aiment l'OM. Voilà.
Ils aiment
l'OL, évidemment.
T'as vu ce reproche que Philippe a dit, ils aiment l'OL évidemment.
Non mais il dit deux fois ils aiment l'OM parce qu'ils soutiennent l'OL et l'OL est important. T'as vu,
ça me fait penser un peu à Jonathan, tu sais, comme il change de nana assez souvent, tu vois. Tu peux
Je t'aime
Isabelle, pardon Priscilla.
Voilà, ça reste entre nous, ça. Non mais est-ce que je balance les dossiers personnels? Arrête,
pour le coup il a pas de dossier Ludo, et ça c'est la vraie
vérité,
comme disaient les
inconnus. Juste en 30 secondes, qu'est-ce que je l'attends, Rudy Garcia au Vélodrome? Mais qu'est-ce que je l'attends? Qu'est-ce que j'attends, la venue de Lyon et de Rudy Garcia au Vélodrome?
Il fait gaffe qu'il fasse pas un coup de crampe, le gars.
Et dans la rage. Avis tranché, Ludo Bragnac.
J'étais surpris, Mais ils nous ont pas sponsorisé en chichon encore.
Ça, c'est un dossier.
Bien sûr.
Ludo, avant que tu développes ton avis tranché, info, première décision forte, Rudy Garcia, Bertrand Traoré, pas convoqué dans le groupe des 19. Beaucoup diront, il était temps.
Bien fait.
Ça, au vu de sa rentrée, ça fait partie aussi des arguments qu'il faut à un moment donné arrêter avec les ailiers, que ça soit, ou quoique j'ai moins de choses à reprocher à
Traoré.
Non, pas à Traoré, à, oh mince, j'ai oublié son nom.
Lequel ?
Maxwell Cornet, ouais. J'ai moins de choses à lui reprocher, mais en termes de QI football, on est quand même loin du compte. Je crois que cette équipe doit s'en sortir en s'appuyant sur son joueur star. Et cette rédemption aussi avec le public, elle passe par le jeu, parce que le fossé qui s'est creusé est profond. Et je crois que il faut mettre des joueurs avec un peu plus de QI footballistique. Il faut installer Memphis Depay en tant que numéro 10 et capitaine d'équipe. C'est-à-dire que
il sera capitaine,
c'est
la star, l'a dit.
C'est la star de cette équipe. Il doit porter ses responsabilités. Je pense que ça, c'est le seul dans cette équipe qui peut avoir les épaules pour le faire. De Nayer, c'est un très bon joueur, mais il est trop introverti. Je le sens pas à l'aise dans ce rôle de capitaine. J'aimerais aussi voir, il y a ces deux matchs, ces deux derniers matchs, il y a une constante qui ressort, c'est que Ren Adelaide doit être un titulaire indiscutable de cette équipe. Je pense qu'il faut faire des choix au milieu, on peut pas continuer à trois au milieu, il faudra faire un choix. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Thiago Mendes, qui est enfin dans des standards un peu plus
comme à Lille. Il se rapproche doucement de son niveau.
C'est pas encore ça, mais il se rapproche. Je crois qu'il faut faire un choix entre lui, Touzard ou Aouar, avec un 4-2-3-1.
C'est quoi ton choix?
Tu nous donnes la compo?
Vas-y, ouais, ça m'intéresse au milieu de terrain.
Alors, tiens, on sait, mais à part sur
tu sors Touzard, tu sors Aouar.
Donne-nous tout, la défense, milieu, attaque.
J'ai un vrai doute parce que après Dijon, je voulais, d'ailleurs Rudy l'a bien fait, je voulais sortir Thiago Mendes pour faire un petit électrochoc, pour lui montrer que ce qu'il fait n'était pas à la hauteur. Mais son équipe, sa rentrée en jeu est plutôt rassurante. Alors mon équipe, ça serait Lopez, donc dans les buts, Marcelo, De Nayer, Dubois à droite, Koné à gauche, Aouar, Mendes, Memphis en 10, Terrier à gauche, Ren Adelaide à droite, Dembélé devant. Je sais que Ren Adelaide, tout le monde a eu l'habitude de le voir rangé dans un milieu à 3. Je le sens pas à l'aise dans ce milieu à 3.
Aussi, hein.
Il a une qualité, c'est qu'il va vite, il est propre techniquement, il est capable de faire des différences. Je crois qu'il est sous-utilisé dans ce milieu à 3. Parce que Rudy Garcia en attend un peu plus sur le plan défensif. Il l'a dit dans sa conférence de presse.
Par rapport à ta compo, une question. Moi, j'aime beaucoup. Je te rejoins à 100% là-dessus.
Et au moins avec Terrier.
La crainte que j'ai, est-ce que tu n'as pas peur que ton milieu de terrain soit peut-être un petit peu léger dans les gros matchs?
C'est le risque. C'est le risque. Mais je suis prêt à prendre ce risque parce que je pense que l'OL doit s'en sortir par le jeu. Les supporters, là, ils arrivent à un point où ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Je pense qu'il faut tenter le coup. C'est un risque à prendre.
Mais Koné à gauche, je suis pas
sûr. Peut-être que si. Tu peux éventuellement, toi, tu ne veux pas le faire, mais moi, je prends ce jeune avec moi et je le fais grandir.
Ah, mais oui,
Ryan Cherki. Voilà. Et s'il faut,
dans le groupe, là.
Et s'il faut, je passe en losange et je le mets en 10 et je reste. Alors, soit je sors d'Mbélé, je mets Memphis en 9 et je le fais jouer Lee en 10, ou alors je joue en losange avec les deux devant.
Et tu mets Cherki
et je mets Cherki en 10. Le talent. Derrière Dembélé.
Attends, juste, il a 16 ans, Ryan Cherki. Convoqué encore une fois, la question a été posée en conférence de presse. Le talent n'attend pas le nombre des années, a dit Rudy Garcia.
Je vais vous dire juste, par rapport à ce que je rejoins Ludo à 100%, par contre, je pense que la clé, outre Memphis Depay, la clé, c'est que Oussama Aouar se remette la tête à l'envers. Parce que c'est un joueur de classe, c'est un joueur qui doit passer un cap, c'est un joueur qui a un potentiel qui est extraordinaire, mais il n'est pas à son niveau. Alors même s'il y a parfois du mieux, il doit être régulier, il doit vraiment... être au niveau que son talent extraordinaire lui permet. Mais je pense que si Lyon va bien, Lyon ira bien avec un bon Oussama Aouar.
Quand je te dis, quand Memphis a besoin de gens qui comprennent le football autour de lui, tu le vois aux Pays-Bas, il a des joueurs autour de lui qui comprennent le football et lui il trouve les solutions.
Il a plus de liberté avec la sélection.
Il trouvera plus de solutions avec Ren Adelaide et Terrier, à mon avis, qu'avec Cornet et Traoré.
Voilà pour l'avis tranché de Lyon, auditeur au 32-16. On nous a appelé Kylian. Salut Kylian!
Salut les gars.
Merci, bienvenue dans l'after, Kylian.
Merci beaucoup.
Bon, apparemment, Rudy Garcia remonte dans ton estime, toi.
Alors, très rapidement, je vous écoute depuis des années, vous animez toutes mes matinées en podcast, donc déjà merci pour ça.
Tu l'écoutes quoi, dans le métro, dans le train, dans le bus?
Jonathan, en plus de ta douceur grammaticale de tes interventions, merci. Excellent choix, les croquettes Karnilov pour la magnifique marinette.
Merci mon pote.
Attends, stop, donne-moi 10 secondes la parole. Effectivement,
les croquettes,
il apprend des mots, tout ça, mais il saccage parfois la langue française, quoi. Ça arrive.
Ouais, mais on lui en veut pas. Ouais,
il prend des risques. Moi, il prend des risques.
Merci, Karnilov. Les croquettes gluten-free, Marinette, elle a un très beau poil maintenant.
Ressortir indigent et crasse à longueur de
l'émission. L'OM a acquéri la semaine dernière.
C'est un running gag, c'est bon.
Vas-y, Kylian.
Donc ceci étant dit, mon avis le suivant, effectivement, je pense que tu peux virer Genesio, tu peux virer Silvinho, tu peux mettre Garcia et Dieu sait que j'ai vomi intellectuellement quand j'ai appris sa nomination, je peux clairement pas le voir. Mais depuis des années, le nom de la maladie de l'OL, elle se compose, de mon avis en tout cas, en quatre mots. Ce sont les joueurs. Depuis quand on n'a pas eu un Diarra, un Chris, un Thiago, et surtout depuis combien de temps on n'a pas aligné un 11 avec presque un dixième du caractère d'un Lisandro Lopez. Donc aujourd'hui, Garcia, pourquoi il remonte dans mon estime, c'est qu'il a pris la meilleure décision qui était prise par un entraîneur depuis des années. Il a écarté l'incarnation, si je puis dire, de la nonchalance et du je m'en foutisme lyonnais depuis des années, Bertrand Traoré. Sur l'ensemble du groupe, finalement, aujourd'hui, on n'a qu'un seul joueur qui a la gagne, qui a envie de gagner, mais il manque de QI football, tu viens de le dire, Ludo, c'est Lopez. Donc, tu pourras faire ce que tu veux, finalement, en termes de changement, et le 11 que tu as évoqué, hormis l'arrière-gauche, que clairement, qui a un niveau de CFA de Lille, on peut pas voir.
C'est marrant parce que c'est marrant parce qu'il n'a pas été si mal à Lille. Hein. Moi, je l'ai vu jouer pendant à peu près 6 mois. Je le retrouve pas, tu vois, même. Mais il, ce garçon est pas si mauvais. Hein, détrompez-vous. Détrompez-vous. Alors, il est très mauvais depuis le début de saison. Mais à Lille, je l'avais trouvé vraiment, vraiment très bon.
Bah, je le trouvais moi déjà en dessous des autres à Lille, et il était dans une dynamique où l'équipe, voilà, était avait un super niveau. C'est plus le cas actuellement. Mais je trouve que depuis le début, offensivement, il apporte rien. Alors certes, Silvinho lui demandait de pas monter, mais maintenant, qu'il y a Garcia, en deux matchs, en tout cas, il a rien prouvé. Il perd beaucoup de ballons, il fait que des fautes. Défensivement, il se fait prendre dans le dos. Donc, je vois pas. En fait, tu perds un Ferland Mendy, qui a un potentiel de dingue.
L'erreur tactique sur le but contre Benfica aussi, il doit jamais suivre le joueur si loin.
Vas-y, Kylian, finis, parce que voilà, vas-y, finis.
Donc voilà, pour moi, je pense qu'on peut faire toutes les compositions qu'on veut. Il y a un changement, mais beaucoup plus profond qu'il faut mettre en place à Lyon. C'est la capacité des joueurs à se motiver pour tous les matchs et avoir du caractère. Si tu changes pas ça, pour moi, tu pourras mettre ce que tu veux, Juninho, oui. N'importe qui. Il y aura pas de changement. Donc, en tout cas, très content d'avoir pu intervenir. Et si je peux me permettre, je fais une grosse bise à deux de vos ultra fans, Clovis et Jonas, qui écouteront le podcast demain matin.
Bonsoir à Clovis et Jonas également. Merci, Kylian.
Ciao, Kylian.
Merci, les gars.
L'élégance du week-end au 32-16. L'affaire de l'élégance. On parle d'un français impeccable. Ludo? C'est bon, 5 secondes. Ton teasing.
On se retrouve tout de suite sur le RMC Fighter Club avec une interview exceptionnelle, exclusive de Georges Saint-Pierre, le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC.
Merci.
Il nous fatigue.
À demain dans l'after, bien sûr. Rendez-vous dès 22h, débriefer la Ligue 1, bien sûr. Et encore une fois, évoquer le match PSG-Marseille dimanche soir. Ouais. Excellente soirée.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Until it's unfair, players getting a yellow card for taking their shirts off after scoring. You get some players who literally could go 300 games without a goal. They slot one in eventually. What's he going to do? Be all casual about it? No, you need to take that shirt off. Takes off his shirt, gets a yellow card. It's not fair.
If you want fair, you want fixed price fibre broadband from TalkTalk. Unlike some providers, our price stays the same for the entire length of your contract, so you won't lose your shirt. Search TalkTalk Fibre. Fairer broadband for everyone.